Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Cube Radio.
Numéro 10!
Le numéro 10 de quoi, Germain?
Le numéro 10 des meilleures marques avec la meilleure qualité initiale selon J.D. Power.
Oui, mais c'est quoi des J.D. Power?
C'est Jean-Daniel Le Pouvoir. Blague à part, Louis-Philippe, avant de commencer ce palmarès, on pourrait quand même peut-être expliquer c'est quoi J.D. Power, parce qu'on entend souvent ça dans des publicités radio ou télé de constructeurs automobiles. On va nous arriver avec des données, des statistiques. Oui. Mais le consommateur moyen, il n'a aucune idée c'est quoi J.D. Power. Et on va commencer ça maintenant. On part!
On part! Depuis 37 ans, Germain, J.D. Power fait un sondage sur la qualité initiale des véhicules. Qu'est-ce que ça veut dire, la qualité initiale des véhicules? C'est dans la première année d'achat ou de location d'un véhicule aux États-Unis. Il faut se rappeler que les gens qui sont sondés par J.D. Power sont uniquement aux États-Unis.
Donc, on se sert des données rendues ici au Canada pour faire la promotion, mais les consommateurs canadiens, eux, ne sont pas sollicités par ce sondage-là.
Exactement. Donc, les affaires qu'on évalue dans la qualité initiale, essentiellement, là, c'est les intégrations sur le système d'infodivertissement, la finition, divers problèmes qui peuvent arriver avec le véhicule dans la première année.
Mais il n'est pas supposé arriver de problème avec un véhicule neuf, non?
Il y en a de plus en plus, en fait, Germain. On voit que cette étude-là montre qu'il y a de plus en plus de problèmes avec les véhicules dans la première année. Puis ça, ça vient souvent à cause qu'il y a de plus en plus de technologies, de plus en plus de bidules, de gadgets dans ces véhicules-là. Donc, ce palmarès-là, cette étude-là apprend de plus en plus d'importance pour évaluer comment que les marques assemblent leurs chars dans la première année.
Et en fait, c'est un sondage qui est réalisé auprès de consommateurs, là. Donc, ça n'a rien à voir avec Consumer Reports, ouais, qui va utiliser, là, une équipe de scientifiques pour évaluer un véhicule de fond en comble.
Non, pas du
On
n'est
pas là du tout. C'est plus un sondage de satisfaction sur le véhicule qu'un consommateur vient d'acheter. Donc, faut en prendre et en laisser dans une certaine mesure parce que d'une marque à l'autre, ben les consommateurs n'auront pas forcément les mêmes exigences.
Oui.
Tu sais, si t'achètes, je sais pas moi, une voiture compacte à 30 000 $, ben tu vas peut-être avoir des attentes plus réalistes que si tu t'achètes une berline de luxe à 150 000 $ par
Exactement.
Exemple. Et on va peut-être avoir tendance à être indulgent avec certaines marques et l'être un peu moins avec d'autres, et on y reviendra. Numéro 10! La marque Lexus en 10e place de ce palmarès-là. Et bon, vous l'aurez deviné, là, il y a beaucoup plus que 10 marques dans l'industrie automobile. On reviendra à la toute fin avec les marques qui sont dans le fond de la cave. Mais en numéro 10, on retrouve Lexus qui a connu 171 problèmes par 100 véhicules. Donc, on le mentionne tout de suite, la moyenne de l'industrie se situe à 192 problèmes par 100 véhicules. Donc, essentiellement, c'est à peu près 2 problèmes par véhicule, ce qui me paraît assez énorme pour un véhicule neuf. Mais en même temps, est-ce que dans ces problèmes-là rencontrés ou dans ces problèmes-là qui sont mentionnés à Jean-Daniel Le Pouvoir, est-ce qu'on n'inclura pas, par exemple, le capteur de pression des pneus qui ferait défaut ou comme on dit en français, là, quand le check engine
un
allume
glitch, là.
Pour
ouais,
un
ouais.
code d'évap, là, alors
ouais.
qu'il n'y a pas de réel problème. Est-ce que une réinitialisation de la connexion Bluetooth de ton téléphone cellulaire à ton véhicule, est-ce que c'est un problème? Ben, pas le choix d'admettre que oui dans ces cas-là.
Oui, c'est des affaires qui n'arrivaient pas avant nécessairement, mais peut-être qu'elles n'arrivaient pas parce que le gadget n'était pas là avant. Donc,
oui, c'est
il
ça.
Il faut prendre ça en ligne de compte. Puis Lexus était reconnu dans ce palmarès-là pour être en haut souvent, et puis maintenant, ben, a descendu justement parce que ça montre peut-être que certaines technologies ne sont pas nécessairement à point dans l'intégration de certains des véhicules.
Et j'ai l'impression aussi qu'il y a une part du problème qu'on peut pelleter dans la cour du concessionnaire aussi, parce que prends l'exemple d'un consommateur qui ne s'est pas acheté un véhicule neuf dans les 6-7 dernières années, disons, et que demain matin prend possession d'un véhicule neuf. Et il va se retrouver face à un objet technologique fort complexe qu'il ne maîtrise pas.
Oui.
Et il aura besoin, entre guillemets, d'une formation pour apprendre à apprivoiser son véhicule. Bien sûr que le préposé à la livraison ne pourra pas passer 2 jours complets avec toi, mais il y a une part d'éducation à faire aussi.
Et c'est pas juste réservé à Lexus, là.
C'est pas juste réservé à Lexus. Il y a un collègue qui me racontait qu'il s'était retrouvé à une borne du circuit électrique d'Hydro-Québec et un automobiliste se stationne à côté. La dame venait de se procurer une voiture électrique et ne savait pas comment utiliser le circuit électrique.
Ouais.
Donc, t'sais, est-ce que ça fait partie des problèmes que tu mentionnes quand tu es sondé après l'achat d'un véhicule? Ben forcément. Là, t'sais. Numéro 9!
Avec Kia qui s'est retrouvé quand même assez en haut dans ce palmarès-là. On pourrait s'attendre avec cette marque-là que je vais dire il y a 10 ans de ça. Je parle tout le temps de Kia il y a 10 ans de ça pour le comparer à des Kia maintenant. C'est pas comparable parce que la qualité a vraiment augmenté. On s'est forcé chez les Coréens, pas juste chez Kia, mais également chez Hyundai. On est dans le numéro 9 pour Kia, mais c'est un bon classement pour ce constructeur-là que je pense qu'il devrait osciller un peu plus vers le haut dans les prochaines années.
Voilà.
Y a-t-il quelque chose à dire à propos de Kia?
Rien du tout.
OK. Numéro 8.
Numéro 8, on retrouve Cadillac, qui se trouve finalement en meilleure position que Lincoln, donc deux marques rivales. Et Cadillac qui se classe mieux que les autres marques de luxe très populaires allemandes.
Ouais.
Donc, visiblement, on a un certain niveau de satisfaction chez Cadillac. Fie-toi sur moi qu'il y a quelques années, quand on utilisait le système Q, que tu as eu la chance d'utiliser à maintes reprises, j'imagine, assurément que... on connaissait davantage de problèmes que 170 par 100 véhicules. C'était un vrai enfer à utiliser. Mais bref, visiblement, la clientèle, après un an, hein, on le précise, est satisfaite chez Cadillac. Je serais curieux de refaire ce même sondage-là auprès de gens qui possèdent leur véhicule depuis 5 ans, par exemple.
C'est toujours ça qu'on se pose comme question. À toutes les marques qu'on va énumérer, ça va être la première année, c'est une affaire. Les autres années, c'est une autre. Mais là, on parle vraiment, vraiment de ces critères-là qui sont évalués. Ces utilisateurs-là, ces consommateurs-là qui ont été sondés dans la première année. Puis chez Cadillac, ben, on essaye de rajeunir la marque, on essaie de rajeunir les... c'est pas facile de faire ça pour les constructeurs, mais Cadillac a fait des pieds et des mains pour être capable
de... On le fait mieux que chez Lincoln.
Oui, oui, oui. Ah, ça, c'est sûr. Chez Cadillac, on a gardé des berlines, on a modernisé les logos, le marketing, etc. pour essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus attirant là, pour les jeunes professionnels dynamiques. Et là, je fais avec mes doigts
des guillemets majuscules.
un terme qui est utilisé par tous les constructeurs dans toutes les présentations qu'on nous nourrit, le jeune professionnel dynamique, alors que tous les constructeurs sont après. Mais chez Cadillac, là, on connaît quand même une bonne... Je pense qu'une bonne petite poussée là, dans cette qualité-là.
Et en même temps, je pose la question à voix haute. Demain matin, tu achètes un Cadillac Escalade que tu vas payer 120, 130 000 $ ici au Canada. Tu vas peut-être être gêné d'aller dire que... t'as eu des problèmes?
dans un sondage de confidentialité, peut-être que oui, mais je sais pas. C'est une bonne question.
On voyait ça beaucoup avec des gens qui ont des utilisateurs cobayes de Tesla. Hein,
ben oui,
ce véhicule-là, c'est génial, blablabla.
On a dit qu'on revenait aux ceux qui sont dans le bas de la cave.
OK. Quand les gens ont une Tesla, c'est la 7e merveille au monde. Puis là, au bout de 2 ou 3 ans, quand ils vendent ce véhicule-là, tout d'un coup, ils nous racontent qu'ils ont eu des problèmes, mais c'est ça. Voilà. Le chat sort du sac, comme on dit. Numéro 7!
C'est Porsche en numéro 7.
Moi, j'ai dans mes notes GMC.
Mais non, c'est Porsche.
Ben, c'est écrit GMC.
C'est parce que c'est 167 problèmes par 100 véhicules qui a été...
Donc, les deux véhicules sont à ex aequo.
Les deux véhicules sont à Execo. C'est 167 problèmes par 100 véhicules qu'on a trouvés. Alors, ils partagent la même position, Porsche et GMC.
La sixième et la septième place du podium.
Exact, oui. Ben, deux marques complètement différentes. Hein. On partage seulement ça, je pense, que chez Porsche et GMC. Porsche, le constructeur allemand, qui est reconnu évidemment pour sa 911, mais les plus gros vendeurs chez Porsche et les gens qui ont répondu à ce sondage-là, c'était probablement des propriétaires de Macan et de Cayenne.
De Cayenne, aux États-Unis, bon, la Panamera, c'est populaire aussi. Fait que, mais visiblement, on a une réputation hein, de véhicule solide, de véhicule à la fine pointe de la technologie, mais la clientèle est satisfaite. Alors, je pense qu'on peut dire mission accomplie chez Porsche. Et GMC.
Et GMC.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Bon, ben on passe au numéro 5.
Ben, si on retrouvait juste avant GMC, grande surprise, on retrouve Chevrolet en cinquième position.
La marque aux nœuds papillons.
Wow, c'est bien dit. On a précisément 166 problèmes par 100 véhicules. Donc, hein, c'est quand même un palmarès qui est très très serré, très condensé.
Oui.
Et on remarque aussi que hein, je veux pas tomber dans des théories du complot qui seraient obscures, mais en tout cas, J.D. Power, c'est une firme américaine. Et traditionnellement, les marques américaines sont souvent représentées dans ce palmarès-là. Et bon, là, on arrive à la moitié du top 10. Et je veux pas gâcher de punch, mais il y a une forte représentation de marques américaines. Numéro 4.
Buick.
Une autre marque américaine, semi-chinoise, semi-américaine. Hein, je pense
oui,
qu'on peut...
fort populaire oui. En Chine. Tout comme Lincoln, d'ailleurs, qui sont encore populaires. C'est des marques qui sont en vie à cause du marché oui. Asiatique. Buick, qui se retrouve en haut. Puis c'est pas la première fois qu'on le voit là, Buick, en haut du palmarès. Peut-être ces véhicules-là, justement, les gens sont très satisfaits. Ils font pas beaucoup de millage. Hein. Peut-être, je trouve que les propriétaires de Buick, c'est pas scientifique qu'est-ce que je vais dire, mais peut-être une clientèle un petit peu plus âgée, un peu moins jeune professionnel dynamique, encore les guillemets avec mes doigts, mais plutôt des golfeurs encore que Buick essaie de rajeunir. Mais peut-être que ces véhicules-là, nécessairement, sont entre les mains de gens qui sont des adeptes de cette marque-là, qui ont toujours aimé qu'est-ce que cette marque-là produisait. Puis
et pourtant, c'est peut-être justement une clientèle qui est plus âgée et qui maîtrise peut-être moins tous les écrans et systèmes informatiques à l'intérieur du véhicule. Alors pour moi, c'est en quelque sorte une surprise de voir la marque, ouais, la marque Buick okay. Si haute dans le palmarès.
Mais on va dire que le système d'infodivertissement chez Buick, ça fonctionne bien. C'est assez simple.
Oui, mais mettons que la dernière technologie que tu as utilisée dans ta vie, c'est un pagette. Ça se peut que tu sois...
Un fax.
Ça se peut que... Tu sais, il n'y a pas de papier à bretelles, là, dans un Buick, là.
Hein? Ouais, bon, ben... les propriétaires dans la première année 2023 de chez Buick sont contents, fait qu'on ne va pas s'assiner avec ça.
C'est ça qui compte.
Numéro 3.
Alfa Romeo. Oui, monsieur. Ça, c'est toute une surprise, là.
Ouais.
Parce que, comme chroniqueur automobile, quand on se fait poser des questions sur Alfa Romeo, ben, on est toujours un peu plus hésitant à cause de la notion de fiabilité. Puis, on sait que c'est des véhicules qui ont leur caprice, hein, on va dire ça comme ça. Puis en même temps, on reçoit beaucoup de commentaires de gens qui en possèdent et qui sont totalement
heureux de
leur véhicule. Alors, c'est pas une science exacte, mais toujours est-il que dans ce palmarès, eh bien, Alfa Romeo se classe au troisième rang avec 143 problèmes par 100 véhicules.
Quand même moins que là, les autres là,
ben
qu'on
oui, parce qu'avec Buick, on était à 162. Là, donc, il y a une marge, il y a une solide marge entre les deux. Là.
Oui, puis Puis, faut rappeler que Alfa Romeo est sous l'égide de Stellantis,
oui,
comme avec les marques Dodge, Chrysler, Ram, etc.
Bon, ben tu viens de nommer donc, les numéro 2 et numéro 1.
Wow. On va en parler, mais Alfa Romeo, justement, qui est des véhicules qui sont vendus en très petite quantité, pas beaucoup de concessions.
Oui. Donc, l'échantillonnage est plus petit.
Ouais, puis il y a pas beaucoup de modèles non plus. Hein. Jusqu'à maintenant, Stelvio Giulia, c'est pas mal ça. Il vient de devenir le tonal. Tonal, comme dirait notre collègue. mais oui, c'est lui qui vient de débarquer. Alors, lui, et jusqu'à maintenant, il y avait seulement ces deux véhicules-là. Maintenant, il y a le Tonal. Il faut le prendre en ligne de compte. Mais pour dire que c'est étonnant, mais les propriétaires les aiment.
Est-ce que c'est justement pas un exemple de gens qui se procurent un véhicule en connaissance de cause, savent qu'il y a peut-être un certain risque et qui vont être
agréablement surpris, comme
oui,
nous.
Ou qui vont accepter et pardonner certains petits défauts. Mm-hmm. Est-ce que ça se peut, ça?
C'est possible.
Puis est-ce que ça se peut qu'à l'inverse, si tu t'achètes un Toyota RAV4 à essence ou une Corolla de base à essence et que tu penses que ce sera un véhicule sans problème,
t'as tellement
jamais,
d'attentes.
T'as des attentes ouais, super élevées.
Puis pas juste des attentes, mais des attentes parce que t'attends pour l'avoir aussi.
Eh bonne.
Numéro 2.
Ben, tu nous as un peu vendu la mèche,
mais
là.
Mais il faut le faire avec la voix de...
la légende Ram.
C'est presque sensuel, tout ça. Hein?
Merci.
Et oui, donc 141 problèmes. Je pense que c'était à toi de parler.
Ouais, ben.
Je pense que c'était à toi.
La marque Ram, les camions, hein, on parle de, comme tu as dit, 141 problèmes par 100 véhicules qui ont été rapportés. Parle aussi d'une marque parce que les gens sont très fidèles. Hein, les marques qu'on énumère depuis tantôt, GMC, Chevrolet, Ram, les propriétaires de camions, très fidèles à la marque. Et puis, chez Ram, on a peut-être trouvé un petit peu moins de bobos, comme on disait tantôt, de ces propriétaires-là. Puis aussi, ben, des camions, on va se le dire, Ram, c'est des camions qui sont bien assemblés, qui ont leur set de problèmes aussi à la longue, mais quand même des véhicules qui sont d'une bonne qualité.
Puis bon, faut le mentionner, là, jusqu'à cette année 2023, on avait dans la gamme le Ram classique, donc le Ram d'ancienne génération,
ouais,
pour lequel on a eu beaucoup de temps pour régler les problèmes de jeunesse. Alors,
ouais,
tu sais, c'est le genre de véhicule que tu peux acheter les yeux fermés, là.
Oui, exactement.
T'auras pas beaucoup de surprises avec ça, là.
Ouais.
C'est des véhicules pour lesquels les bobos et les qualités ont eu le temps de sortir, là, ouais, sans problème.
Tout
là,
comme la première position de ce palmarès, cette théorie s'applique très bien. Alors, numéro un,
Dodge. Donc, Dodge qui avait une gamme relativement vieillissante jusqu'à jusqu'à l'année modèle 2023 avec des Chargers et des Challengers qui ne seront pas de retour pour 2024.
Ouais.
Bien sûr, on arrive avec le Hornet, donc
mais le Charger et le Challenger étaient là tout seuls depuis éternellement, là. Il n'y a pas eu de nouveaux véhicules, ouais, chez Dodge depuis la Dart, donc c'est sûr.
Mais
que...
là, en même temps, on arrive là en ce moment même avec le Hornet.
Ouais, avec
là,
le Hornet.
Il y a un point d'interrogation autour de ce véhicule-là, mais tu l'as conduit, je pense.
Ouais, beaucoup de nouveautés. Là, par exemple, je pense à la variante PHEV,
ouais,
qui est un 1.3 litres turbo compressé avec un système hybride. Fait qu'on avise un peu de faire attention, faire gaffe, parce que c'est une grosse nouveauté chez Dodge. Ouais. On va faire attention. Mais quand même, un nouveau véhicule qui s'ajoute à la gamme depuis vraiment longtemps. Et pour Dodge, ben, on félicite d'avoir gardé cette qualité-là dans le peu de véhicules qu'il y avait dans le catalogue, et gardé cette qualité-là initiale.
Alors, c'est la marque championne, selon J.D. Power, pour l'année 2022. Hein?
Ben oui. Voilà. Ben, c'est ça.
Un petit mot sur le fond du baril.
Ouais, ben le fond du baril, puis des marques aussi qui nous ont étonnés. Comme moi, je vais commencer avec Toyota, qui est en dessous, ouais, de la moyenne. C'est très rare.
C'est très rare, mais bon, on en a glissé un mot tout à l'heure. Je pense que la clientèle est particulièrement sévère et exigeante avec cette marque-là.
Ouais.
Alors, c'est la manière dont on peut expliquer en quelque sorte ce résultat-là. Là.
Ouais. Puis aussi, ben pour parler du fond du baril, il y a des marques dont les propriétaires sont sondés, mais pas dans tous les États. Certains États, le constructeur doit donner la permission pour être capable de recevoir le sondage J.D. Power. Et des États comme la Californie, par exemple. Donc, des marques comme Polestar et Tesla, ils font partie du palmarès, sont les deux dernières, mais elles ne sont pas officiellement comptabilisées dans ce sondage-là parce que justement, il manque des États, mais ça donne quand même un échantillonnaire
oui.
de dire que...
Le nombre de problèmes par 100 véhicules est largement supérieur à celui du reste de l'industrie. On est à 257 problèmes par 100 véhicules avec Tesla et rien de moins que 313 problèmes par 100 véhicules. Ça veut dire essentiellement 3 par véhicule par Polestar. C'est énorme.
Puis Polestar, qui est une marque, une sous-marque de Volvo, hein, affiliée avec le gros consortium chinois Geely. Volvo est la dernière marque dans le sondage là qui est officiellement comptabilisé avec tous les États des États-Unis avec un bon échantillonnage. Volvo qui est avec 250 problèmes par 100 véhicules. C'est quand même étonnant, Volvo Polestar avec tous ces problèmes là qui ont été relevés dans la première année d'acquisition, la première année pour ces véhicules là.
C'est peut-être décevant, mais ce sont les chiffres qui nous sont donnés. Là. On n'invente rien. Là. Et ça ne reflète pas forcément non plus notre opinion personnelle et professionnelle.
Non, exactement. L'an prochain, on va probablement voir VinFast aussi dans ce...
Oh oui!
S'ils vendent assez de véhicules aux États-Unis.
Je ne sais pas s'ils seront dans le top 10.
Ouais. C'est, à date, on s'en doute. Surtout que moi, par exemple, j'ai essayé le VF8 de VinFast dans la première...
Une merveille, hein, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Mais une vraie petite merveille.
Germain, moi, j'ai eu...
Ben oui, t'as conduit ça 2 heures, t'as pas eu de problème.
Correct. Non, mais juste pour te dire que c'est pas dans la première année d'acquisition qu'il va y avoir des problèmes. Nous, c'est dans la première journée du lancement qu'après nous, le groupe canadien qui a essayé ces véhicules-là, les Américains, le lendemain, ont eu des bobos que... Les gens sondés dans le sondage d'AD Power pour la qualité initiale répondraient que c'est un problème. Et nous autres, ça a duré à peu près 24 heures. Donc, on dit que chez VinFast, on va tout réparer ces affaires-là. On donne la chance aux coureurs. C'est un premier constructeur. Puis je pense qu'on a passé à travers ce sujet-là.
On donne la chance aux coureurs, mais ils sont mieux de courir vite, là.
VinFast?
Ça va être run
fast. OK, on passe à la question du réalisateur.
Question du réalisateur, il nous demande si on est d'accord avec ce palmarès-là et si il n'y a pas des surprises ou des marques qu'on aurait vues plus haut ou plus bas dans ce palmarès-là, selon nos expériences en tant que chroniqueur automobile.
Ben moi, Germain, je vais prendre les petits extraits que t'as dit pendant tout cet enregistrement-là parce que...
J'aime ça quand tu me cites.
Ouais.
Ça fait du bien à mon égo.
Il y a beaucoup de facteurs. Tu sais, je vais dire, par exemple, on dit que Dodge, OK, cette année, on vient de sortir ce sondage-là, les résultats de ce sondage-là. Les gens vont commencer peut-être à acheter des Dodge Hornet. On le sait pas. Peut-être qu'il va y avoir des problèmes avec. Ils vont s'être basés un peu sur ces résultats-là qui ont été comptabilisés avec des propriétaires de Challenger puis de Charger, là, pas des propriétaires de Dodge Hornet. Donc, c'est sûr que ça veut pas tout dire. C'est ça que je trouve que une des facettes que le sondage, qu'on peut pas se fier entièrement à ces résultats-là. Et puis, pour les véhicules que je pense qui mériteraient une meilleure position, là, on regarde Acura, Honda. Honda qui est légèrement un peu plus haut que la moyenne. Acura qui est beaucoup plus bas.
Oui, c'est ça. Donc, et des fois, on se l'explique mal parce que bon, deux marques aussi proches, bien, puis un grand écart aussi entre Lexus et Toyota.
Ouais. Qui utilisent les mêmes composants.
C'est ça, les mêmes plateformes, les mêmes composants, bien souvent, les mêmes moteurs, transmissions, etc. Fait que des fois, on s'explique mal ces écarts-là. Moi, je suis très surpris de voir Jaguar dans une bien meilleure position que Subaru, Hyundai, Honda, Toyota.
Au-dessus de
Mazda.
La moyenne Jaguar.
Tu sais, j'ai de la misère, moi, à digérer cette position-là. Ça me paraît tout à fait illogique. Mais bon,
c'est des gens qui ont été sondés
et qui
puis
ont été
des propriétaires qui ont été satisfaits. Donc, voilà. C'est sûr qu'on peut pas, on peut mettre en doute, on peut être surpris, mais c'est un sondage qui est fait en bonne et due forme par des propriétaires. Donc, on le prend en ligne de compte pareil.
Voilà. Merci d'avoir été des nôtres. C'était Louis-Philippe Dubé et moi-même, Germain Goyer, à l'animation.
À la réalisation, la musique et le montage, Philippe Séguin.
C'était une production Cube Radio.